Vous écoutez IDFM, il est 11h.
Bonjour à toutes et à tous, Christophe Gravreau au micro d'IDFM Radio. Bienvenue dans notre balade musicale. Je suis absolument ravi de vous retrouver et nous sommes ensemble jusqu'à midi avec un magnifique programme. Dans son disque intitulé Ellipse, la talentueuse violoncelliste Anastasia Kobekina nous raconte l'histoire du violoncelle, du baroque au contemporain. De son côté, la diva perfectionniste, soprano et chef d'orchestre Barbara Hannigan nous entraîne dans la Vienne début de siècle avec des leaders d'Alban Berg et surtout une version chambriste de la 4e symphonie de Gustav Mahler débordant d'énergie. Et tout de suite, nous avons le plaisir d'être en duplex avec le pianiste et chef d'orchestre François-Frédéric Guy qui publie une anthologie d'œuvres de Chopin dans un magnifique double album, Une Somme, qui paraît sous le label La Dolce Volta. Bonjour François-Frédéric Guy.
Bonjour Christophe.
C'est un grand plaisir de vous retrouver à notre micro sur IDFM Radio. Et en même temps, c'est une surprise que vous nous faites avec ce premier enregistrement consacré à Chopin, après tant de très beaux disques, une quarantaine je crois, nous plongeons dans le monde de Beethoven, de Brahms, mais aussi de Liszt, de Debussy et de la création contemporaine.
Oui, absolument, et ça ne vous a pas échappé, l'album s'appelle Jardin secret.
Absolument, on va en reparler. Et si vous me permettez, bien qu'on ne vous présente plus, vous menez une carrière internationale aux côtés des plus grands chefs, Philippe Jordan, Kent Nagano, Esa-Pekka Salonen, avec des orchestres prestigieux. Depuis 2012, vous dirigez régulièrement du piano différentes formations, l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, le Symphonia Orchestra, le Hong Kong Philharmonique, l'Orchestre National de Lorraine ou l'Orchestre de Chambre de Paris, avec lequel vous avez reçu un accueil triomphal au Théâtre des Champs-Élysées en janvier 2020, lors de l'ouverture de l'année Beethoven du théâtre. Vous aviez offert au public les 5 concertos en une seule soirée et c'était mémorable, vous vous souvenez bien sûr.
Oui, je m'en souviens, c'est un souvenir effectivement très émouvant et en même temps qui lançait malheureusement une période très incertaine et très difficile pour nous à cause du Covid.
Bien sûr. Alors, je reviens maintenant à cette première question. François-Frédéric Guy, pourquoi ce titre de votre album « Secret Garden, Jardin secret » ?
Chopin, pour moi, a été pendant très longtemps... j'allais dire mon compositeur de cœur, mon compositeur de chevet, mais que j'ai gardé pour moi. C'est la première musique que j'ai entendue dans mon enfance. Mon père jouait la plupart des œuvres qui figurent sur cet album, même de manière imparfaite, car c'était un pianiste amateur, mais un amateur très éclairé.
Ah oui, en effet.
Oui, absolument. Et j'entendais ses valses, ses ballades, la fantaisie en fa mineur, qu'il jouait presque tous les soirs. Et évidemment, j'ai été imprégné de cette musique, elle qui m'a ébloui, mais en même temps, ça m'a un petit peu terrifié, parce que j'avais l'impression d'une telle exigence, et j'ai toujours cette impression d'ailleurs, une telle exigence demandée par Chopin, que je ne me sentais jamais encore assez prêt pour non seulement le jouer en public, mais encore plus l'enregistrer.
Donc c'était pas du tout par manque d'empathie pour Chopin. Est-ce que c'était un excès de modestie après tellement d'enregistrements exceptionnels d'immenses pianistes du passé, Samson François, Arthur Rubinstein, Vladimir Horowitz, Claudio Rao, etc., etc.
Disons que c'est pas un excès de modestie, mais c'est une vraie modestie par rapport effectivement à un répertoire qui est très enregistré, mais je le dirais pas tellement plus que les sonates de Beethoven. Par les plus grands, bien sûr. Mais c'est surtout par rapport à ma propre psychologie d'interprète. J'ai eu besoin de temps. J'ai eu besoin de le laisser, de le travailler pour moi. Et puis, vous savez, Chopin, c'est une exigence multiple. C'est la quadrature du cercle. Chopin, c'est en même temps la pureté de Bach. C'est la fontaine de jouvence de Mozart. C'est l'exigence du dernier Beethoven. Et c'est le romantisme d'un déraciné. Et donc, il faut à chaque fois et tour à tour mêler ces quatre éléments, si j'ose dire. Et c'est ça qui est très difficile, sinon on reste en surface, comme souvent, hein, avec ce compositeur, et malheureusement, on ne livre pas vraiment le message qui est si émouvant.
Parce que c'est vraiment la perfection dans l'écriture.
C'est la perfection absolue, mais comme il mêle plusieurs, comme je viens de le dire, plusieurs éléments fondamentaux de l'être humain, il est particulièrement difficile. On ne peut pas se contenter d'être romantique dans Chopin, on ne peut pas non plus se contenter de jouer tout droit comme si on jouait du Bach. Ce n'est pas non plus du Beethoven, mais c'est un petit peu de tout ça, et c'est aussi cette source inépuisable et cette perfection quasi mozartienne.
Dans ce corpus exceptionnel de Chopin, comment est-ce que vous avez fait, François-Frédéric, pour sélectionner les œuvres qui figurent dans votre double album anthologique ?
Ben, ce sont les œuvres finalement qui m'ont accompagné pendant les 50 dernières années, en secret bien sûr, comme vous le savez maintenant. Et c'est les œuvres que mon père jouait, c'est les œuvres que j'ai travaillées quand j'étais jeune, et puis les œuvres de chœur, notamment je pense à des œuvres très très puissantes comme la Polonaise Fantaisie, que j'ai déjà jouées assez souvent en public, en vérité. Mais ce sont des œuvres qui ont tellement besoin de mûrissement. Voilà, j'ai fait un cheminement qui part d'ailleurs des premières époques de Chopin, les Nocturnes opus 9, pour arriver aux dernières œuvres, donc la Polonaise Fantaisie, la troisième sonate, les derniers Nocturnes. Et puis j'ai mis quelques bis à la fin de ces fameuses œuvres posthumes qui sont célébrissimes, comme le Nocturne en Do dièse, la Fantaisie impromptue ou d'autres, qui sont des œuvres de jeunesse, hein, qui ont été publiées plus tard. Et donc, ça, voilà, c'est un parcours comme ça.
On va débuter, si vous le voulez bien, par l'étude numéro 1 de l'opus 10, une pièce fulgurante et solaire, m'avez-vous dit hors micro.
Oui, c'est vrai.
Frédéric Chopin sur IDFM Radio par François-Frédéric Guy, c'était la première étude de l'opus 10 qui figure sur votre double album sorti sous le label Dolce Volta. Vous avez enregistré ce programme Chopin sur un piano Pleyel de 1905 et ce choix peut quand même doublement surprendre. Pourquoi ne pas avoir opté, comme beaucoup de vos confrères, par un confortable Steinway D de concert ou bien un piano antérieur, un Pleyel des années 1840, sur lequel aurait pu jouer Frédéric Chopin ?
C'est une bonne question. C'est une question à laquelle que je me suis posée pendant très longtemps. Et j'ai finalement trouvé cette réponse. Si on regarde l'histoire du piano, et surtout son développement au cours du 19e siècle, finalement, les pianos de l'époque de Chopin étaient, encore en devenir. Et les pianos qu'il aimait, les Erard et surtout les Pleyel, étaient en devenir, n'étaient pas encore à leur stade ultime de développement. Et quand j'ai essayé, pour la première fois ce piano, donc ce piano extra large, extra long de Pleyel de 1905 aux ateliers Balleron, qui a été restauré par Sylvie Foinon et Marion Lenné, de magnifiques, magnifiques restauratrices d'instruments. Quand j'ai essayé ce piano, j'ai été ébloui parce que j'ai retrouvé le meilleur du piano Pleyel de l'époque de Chopin et le meilleur d'une mécanique moderne de Steinway avant que voilà, ça devienne vraiment autre chose. Et donc finalement, c'est une époque, ce piano c'est peut-être l'achèvement ultime de ce que Chopin aurait souhaité pour jouer sa propre musique.
En tout cas, on s'en rend bien compte en vous écoutant, François-Frédéric. C'est vraiment, c'est magnifique.
Oui, il faut. Je voudrais juste ajouter une petite chose. Finalement, pour Chopin, il faut de la clarté, il faut du répondant, il faut des basses très, j'allais dire, très claires et non pas cotonneuses. Et il faut en même temps de la vélocité. Il faut, on l'a entendu dans l'étude Opus 10 numéro 1.
Ah oui.
Et c'est toutes ces qualités qui sont réunies dans ce piano. Et c'est pour ça que j'ai été vraiment ébloui par cet instrument.
Alors cet instrument, ce Pleyel de 1905, est-ce que c'est un avantage pour l'interprétation de la musique de Chopin, par exemple pour le cantabile ou le rubato?
Oui, bien sûr. Alors il ne faut pas chercher, ça va peut-être dérouter aussi un petit peu les auditeurs, il ne faut pas chercher un son de Steinway moderne. Les Pleyel de l'époque de Chopin, et même encore de ce Pleyel de 1905, ont un tout petit déficit de puissance dans l'aigu,
oui.
ce qui ne gâte en rien leur qualité intrinsèque, mais c'est comme ça. Et leur vitesse de course des marteaux est très très rapide par contre. Donc il faut chercher plutôt effectivement dans le rubato, la vélocité. Vous avez pu voir que dans l'étude et même dans d'autres morceaux qu'on va peut-être entendre, on peut jouer à des vitesses phénoménales tout en restant très clair et très, j'allais dire, très pur. Et ça, c'est vraiment les grandes qualités du piano en question.
Nos auditeurs vont pouvoir juger sur pièce avec votre interprétation, François-Frédéric Guy, de la ballade numéro 2 en Fa majeur, opus 38.
Thank you.
La glace précède le feu, c'était la seconde ballade de Chopin. Sous vos doigts, François-Frédéric Guy, un extrait de votre double album Jardin secret, qui est publié par le label La Dolce Volta et procure un grand bonheur d'écoute. Il y a d'autres fameuses partitions, vous l'avez dit, François-Frédéric, comme la ballade numéro 1, la polonaise fantaisie et la sonate numéro 3, ponctuées par des pièces plus courtes, n'est-ce pas ?
Oui, absolument. Et ce sont finalement, dans cet album, on se rend compte de l'extraordinaire diversité d'inspiration de Chopin, aussi bien dans les petites formes, ça tout le monde l'a déjà noté et tous les plus grands exégètes de Chopin l'ont noté depuis longtemps, mais aussi un maître absolu de la grande forme avec notamment la sonate en si mineur qui fait près de 30 minutes. Elle a longtemps été délaissée par rapport à sa petite sœur funèbre qui avait les faveurs du public, et puis dans les années 60, Dinoulis Paty notamment, et puis plus tard Sanson François et encore plus tard Martha Argerich ont donné ses lettres de noblesse à cette sonate absolument phénoménale, où justement ce qu'on disait au début de l'émission transparaît de manière fulgurante, c'est-à-dire ce mélange de classicisme un peu austère, de romantisme échevelé et débridé, je parle du final notamment, oui. Et puis ce cœur sur la main, cette immense nocturne qui est le troisième mouvement, le mouvement lent, un sommet, disons, de l'expression chopinienne.
C'est magnifique, et dans le cadre de cette émission, c'est trop long, malheureusement, on ne peut pas l'entendre.
Bien sûr.
Mais nos auditeurs vont se reporter à votre disque, bien sûr.
Oui.
Alors, des nocturnes et des valses, il y en a. Comme cette valse en ré bémol majeur opus 70 numéro 3 posthume. Frédéric Chopin sur IDFM Radio, notre invité en balade musicale, François-Frédéric Guy, interprétait la valse en ré bémol majeur opus 70 numéro 3, posthume. Vraiment une œuvre superbe.
Oui, on parlait de ce qui m'avait conduit à choisir ces œuvres dans cet album, évidemment dans ce répertoire inépuisable de Chopin. Et cette œuvre, je me souviens très bien de mon père la jouant presque tous les soirs, cette valse en ré bémol. Alors,
vous aviez de la chance d'avoir un père qui joue ça.
Il jouait tout d'oreille, tellement il était capable de restituer un disque entièrement d'oreille sans presque aucune erreur. Mais par contre, il avait beaucoup de mal à lire les, parce qu'il n'avait pas appris le solfège. Et donc, du coup, avec tous ces bémols dans le passage central, en sol bémol majeur, ça lui donnait des cauchemars. Mais par contre, il le jouait très très bien du point de vue de l'interprétation. C'est une œuvre délicieuse, hein.
Absolument.
Qui date de 1829. Donc, c'est une des premières œuvres que Chopin avait dans ses valises avec les concertos quand il est arrivé à Paris. Et qui a été retrouvé sur le tard et donc publié après sa mort, ce qui explique son titre posthume.
Voilà.
Mais c'est une œuvre vraiment, je trouve, où il y a toute la mélancolie, la nostalgie des valses. Il était très fier de ses petites valses opus 70. Elles n'étaient pas destinées à être jouées en public. Elles avaient vraiment ce caractère ultra privé, étaient souvent dédiées à de jolies femmes, naturellement.
Bien sûr. La nostalgie, la beauté, le cantabile, bref.
Il y a tout. Et la simplicité aussi, on l'idée. Oui. Hein. Il n'y a pas une note qui sort et on se dit, tiens, c'est bizarre. Non, c'est une telle... Et là, on retrouve le côté mozartien, c'est-à-dire on écrit directement à la perfection sans correction.
Formidable, ça. C'est ce qu'on appelle le génie, tout simplement.
Le génie absolu à l'état pur.
François-Frédéric Guy, vous avez des dates de concert très bientôt dans des salles prestigieuses.
Oui, mais il y aura notamment deux dates très bientôt. Une à l'Opéra de Lyon le 25 janvier, avec un programme qui mélangera Chopin et Beethoven, notamment la troisième sonate de Chopin et sa première ballade, mais aussi l'ultime sonate de Beethoven, la 32e, qui a été souvent une source d'inspiration pour Chopin, bien qu'il s'en défende. Et ce programme sera répété quelques jours après, le 27 janvier, à Paris, à la scène musicale, pour être très précis, à Boulogne-Billancourt, dans cette merveilleuse salle. Et alors, il y aura une particularité pour ce concert, c'est que je le donnerai sur ce fameux Pleyel de 1905, qu'on a la chance, j'ai eu la chance qu'il soit mis à ma disposition par les ateliers Balleron pour pouvoir vraiment que le public puisse entendre ce merveilleux piano en direct.
Alors ce sera une occasion à ne pas manquer, je répète, le vendredi 27 janvier à la scène musicale de Boulogne-Billancourt. Comment fait-on pour réserver ? Le mieux c'est peut-être d'aller sur le site de la scène musicale.
Oui, absolument, je l'imagine. Il faut vérifier l'horaire, je me demande si ce n'est pas 20h30.
Bon, alors à vérifier. Mais enfin, bon, si on arrive un peu avant, après tout, c'est pas plus mal pour apprécier le site et cette salle qui est magnifique.
Voilà, et pour découvrir l'extraordinaire architecture extérieure comme intérieure de cette salle qui est vraiment phénoménale.
Avec en plus un programme absolument formidable. Là, vraiment, je crois que...
Oui, il y aura donc le Nocturne en Do mineur, le grand Nocturne en Do mineur de Chopin, qui figure bien sûr sur l'album aussi, la première ballade, la troisième sonate, et puis après l'entracte, l'ultime sonate de Beethoven, qui est peut-être une des plus grandes œuvres jamais écrites, à part toutes celles de Chopin, bien sûr.
Oui, évidemment. Enfin, c'est vrai que quand on termine sur l'opus 111, la 32e de Beethoven, il n'y a plus rien d'autre à entendre.
Voilà. Sauf peut-être Chopin.
Oui, naturellement.
D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Je me demande toujours quoi jouer en bis après l'arietta de la 32e sonate. Et finalement, j'en suis venu à la conclusion que c'est peut-être seulement Chopin ou Bach, peut-être, qui peuvent être joués en bis après cette œuvre.
Sans doute. On atteint là les sommets.
Les sommets.
Insurpassables. Revenons Absolument. À votre double album, Chopin. Jardin secret, votre anthologie se termine avec une pièce que j'adore personnellement, c'est la Fantaisie impromptue en ut dièse mineur, opus 66 posthume. Cette pièce vous touche d'ailleurs tout particulièrement, je crois.
Oui, c'est une pièce qui me touche. Vous savez, c'est aussi une confidence qu'on peut révéler au public, mais c'est une pièce que Chopin n'aimait pas. D'ailleurs, il a mis beaucoup de temps, il ne l'a pas publiée, c'est pour ça aussi qu'elle est publiée posthume, opus 66, je crois. Mais elle n'aimait pas parce que, en fait, on voyait trop les imitations de la sonate au clair de lune de Beethoven et notamment les formules qui rappellent celles du final de la sonate. C'est la même tonalité.
Oui.
Et vraiment, il y a des formules, quand on écoute avec un tout petit peu d'attention, c'est vraiment tout à fait flagrant et il ne pouvait pas l'ignorer. Et donc, il avait laissé un petit peu cette œuvre en déshérence et pourtant, elle est devenue l'une de ses plus populaires, à mon sens, à juste titre. Parce que je trouve qu'aussi, on parlait du feu sous la glace, il y a vraiment ce côté aussi un peu schubertien, ça rappelle un peu certains impromptus de Schubert. Il y a ce feu au début et puis ce milieu, ce grand nocturne au milieu, que d'ailleurs je me permets d'orner un petit peu puisque les trois fois sont répétées normalement sans aucune fioriture et j'ai une petite théorie là-dessus. Je pense que Chopin n'avait pas tout à fait terminé l'écriture et comme on le fait quelquefois dans les mouvements lents des concertos de Mozart où on fait des ornementations qui ne sont pas écrites dans la partition, me suis permis une ou deux petites ornementations dans ce passage central de la fantaisie impromptue et avec beaucoup de délicatesse, j'ai énormément étudié l'ornementation de Chopin pour être sûr d'être parce que c'est très difficile.
Eh bien, je vais vous faire une confidence, vous avez très bien fait.
Merci.
Alors, avant de se quitter, écoutons par notre invité François-Frédéric Guy, la fantaisie impromptue, opus 66 posthume de Frédéric Chopin. François-Frédéric Guy, notre invité en balade musicale sur IDFM Radio, interprétait la fantaisie impromptue opus 66 posthume de Chopin, un extrait de votre formidable anthologie de Chopin, un double album qui paraît chez la Dolce Volta. Après 30 ans et 40 disques, il était temps de vous mesurer à Chopin, et avec quel résultat, pour notre plus grand plaisir à tous. Merci beaucoup François-Frédéric Guy.
Merci Christophe.
Cet entretien était passionnant. Bonne journée et bon concert à Lyon et ce 27 janvier à la scène musicale de Boulogne-Billancourt. Du violoncelle maintenant avec la jeune et excellente artiste Anastasia Kobekina qui raconte une histoire du violoncelle du baroque au contemporain. Son album est paru chez Mirare et s'intitule « Ellipse ». On y trouvera de courtes pièces bien connues, comme la Sicilienne de Gabriel Fauré, et surtout la sonate de Debussy, qui bénéficie du jeu élégant de la violoncelliste et du piano sans lourdeur de Vincent Boccadoro. En voici le final. Claude Debussy sur IDFM Radio, Anastasia Kobekina et Vincent Boccadoro étaient les interprètes du final de la sonate pour violoncelle et piano. Le disque d'Anastasia Kobekina comporte des pièces contemporaines comme La Folia de Thierry Esquèche, qui séduit par son rythme et par son énergie, ainsi que Gallardo, ostinato pour violoncelle et tambourin de Vladimir Kobekin, le père d'Anastasia. On retrouve le jeu élégant d'Anastasia Kobekina dans la transcription avec guitare de la fameuse aria de Villa-Lobos, avec la complicité et le jeu sensible de Thibaut Covin.
Thank you.
aria de la 5e des Baquianas Brasileiras de Villa Lobos par Anastasia Kobekina, violoncelle, et Thibaut Covin, guitare, extrait du nouveau disque de la violoncelliste baptisée Ellipse, sorti chez Mirare. La soprano canadienne Barbara Hannigan, révélée par la musique contemporaine, est une grande interprète de Francis Poulenc et Claude Debussy. La diva est aussi, depuis plus de 10 ans, une chef dont l'univers singulier ne cesse de conquérir de nouvelles frontières. Dans son nouveau disque enregistré en public à Rotterdam en 2021 et sorti chez Alpha Classics, Barbara Hannigan présente la Vienne début du siècle, avec des leaders de jeunesse s'inscrivant dans le post-romantisme d'Alban Berg, dans une orchestration pour orchestre de chambre. En seconde partie, la symphonie numéro 4 de Gustav Mahler est présentée dans la réduction d'Erwinstein pour les concerts privés de Schönberg en 1921. Écoutons le 4e mouvement de la symphonie, un lied avec accompagnement d'orchestre au titre évocateur « La vie céleste », chanté par Barbara Hannigan avec l'orchestre de la Camerata RCO, dirigé par le chef néerlandais Rolf Verbeek.
Schicken nur den Wein, den gleich mit Freuden angeschwommen. Dort leuch uns ein Bretter mit Netz und mit Kühle zum himmlischen Feuer.
Gustav Mahler sur IDFM Radio vient de refermer notre émission. C'était le final de la 4e symphonie, avec des interprètes dont le talent est éblouissant, Barbara Hannigan soprano et l'orchestre de la Camerata RCO, avec à la baguette Rolf Verbeek, un disque paru sous le label Alpha Classics. Je serai ravi, quant à moi, de vous retrouver vendredi prochain pour une nouvelle balade musicale. Vous pourrez réécouter ou podcaster cette émission en vous connectant sur le site d'IDFMradio.fr. Merci à Francky à la technique. Et bien sûr, restez à l'écoute des programmes d'IDFM Radio avec maintenant les informations.
Chaque jeudi, retrouvez-moi dans Mission Verte de 10h à 10h30. Nous parlons environnement, développement durable, du point de vue local à travers des acteurs associatifs, mais aussi des acteurs publics et privés qui vont nous rendre l'environnement plus accessible. Alors n'hésitez pas, chaque jeudi 10h, 10h30 ou en podcast sur notre site idfm98.fr.
Rendez-vous compte, vous ne savez sûrement pas qui était le Barbe Bleue de Gambet ni quel rapport il avait avec Charlie Chaplin, ou que le caducée des médecins n'est pas un caducée, et que le 31 décembre n'a pas toujours été le dernier jour de l'année. Rendez-vous compte, vous ne savez sûrement pas pourquoi Ève a accueilli le trèfle à quatre feuilles dans le jardin d'Éden, toutes ces histoires, et bien d'autres étonnantes, ignorées, oubliées, qui nous viennent parfois de la nuit des temps et des hommes, eh bien je vous les raconte dans mon émission. Rendez-vous compte, le jeudi à 18h sur IDFM Radio. Rendez-vous compte.